prochain arrêt, Carnotzet, Voltaire.
Vautier Kultur on Air.
Carnotzet, Voltaire.
Carnotzet, Voltaire.
Carnotzet,
Voltaire.
Voltaire. Bonsoir tout le monde, c'est Carnotzet Voltaire, votre émission culturelle en français sur la radio Rabais. Aujourd'hui, on va à nouveau parler d'écriture, mais de quelle écriture ? Nous mettons à l'honneur le travail de traduction, ce travail souvent oublié et qui peut mener à tout. Notre invité Valentin Descopet, un Lausannois exilé à Berne, nous racontera son parcours, d'abord de traducteur, puis d'écrivain, car aujourd'hui il publie aussi son premier roman, qui est d'ailleurs en lice pour le prix des lecteurs de Lausanne. Donc on parlera durant cette heure, non seulement de traduction, mais aussi simplement d'écriture. Nous ferons aussi une incursion du côté des textures à Fribourg, un festival dont on avait, à qui on avait consacré une émission il y a une année. Les textures, ce sont donc les rencontres littéraires qui proposent notamment un atelier autour de la traduction, justement, un atelier animé par notre invité. Et puis, nous écouterons de la musique apportée par Valentin Descopet. Voilà, à peu près pour le programme aujourd'hui. Est-ce que ça te convient, Valentin ?
Oui, c'est super. Merci, merci pour l'invitation, je suis très content d'être là.
Et puis, au micro, nous avons Laure.
Bonsoir à toutes et à tous. Salut Valentin. On a beaucoup de chance parce qu'on aime beaucoup, en fait, titiller un peu la curiosité de nos auditrices et auditeurs bernois qui comprennent davantage le dialecte. Tu peux t'en douter. Donc peut-être que tu pourras nous faire une traduction simultanée, enfin une interprétation du coup, de certaines de tes réponses.
Parce que Valentin traduit de l'allemand, mais aussi du suisse-allemand et de l'anglais en français. Et puis vous allez peut-être aussi entendre Elia qui n'est pas loin et puis Eleonore nous rejoindra en cours de route. Mais on commence tout d'abord par un morceau de musique amené par notre invité, ça s'appelle Douzkawa, Dommages collatéraux.
La prime pour la capture de cet homme est de 5 000 $.
Un certain Judas a trouvé que 30 $ c'était tout à fait suffisant.
Il n'y avait pas de dollars à cette époque-là.
Mais des fils de pute, ça, il y en avait.
Hommage au sombrero, anonyme sous le sombrero, victime de la folie des hommes qu'on nomme. Hommage collatéraux. Dommage le village de Bourg où je lance des nuages de signaux, où je dis famille qu'ils terrorisent, ils disent. Hommage collatéraux. Duel au soleil. Mes boots font des cliquetis, gros plans sur mon soleil, comme dans un western spaghetti. Je terrorise les peuples lorsque j'arrive au saloon. Serre-moi un litre d'alcool quand j'avance, écarte la foule. Dis que si un homme qui de la réserve s'évada va bientôt giser au sol de la Sierra Nevada. À coups de comptoir, je raconte l'histoire de la tribu Conchassa. J'entends venir tes pas et l'ami, les apparences sans en bas. Car la nuit, tous les chits sont gras et les anges déchus sont là. Crache ton truc à chiquer, c'est moi que tu trouves crado. Dépêche-toi pour m'affronter, Chico, je descends toujours. Les despés, radeau avant mon petit déjeuner. Tu sens déjà les gouttes s'écouler sur tes tempes. Pendant que prends tes mesures, le croque-mort qui refermera le couvercle. Au-dessus de ta tête, les vautours tournent déjà en cercle. Hommage au sombrero, anonyme sous le sombrero, victime de la folie des hommes qu'on nomme. Dommage collatéraux. Dommage le village de Bourg où je lance des nuages de signaux. Où je dis famille qu'ils terrorisent, ils disent. Dommage collatéraux. Hommage au sombrero, anonyme sous le sombrero, victime de la folie des hommes qu'on nomme. Dommage collatéraux. Dommage le village de Bourg où je lance des nuages de signaux. Où je dis famille qu'ils terrorisent, ils disent. Dommage collatéraux. C'est l'histoire d'un peuple en paix sur des terres où étaient plantés. Les tipis et moi tout petit jouent avec des peintures teintées. C'est le Wild Wild West qui nous a élevés comme une mère solitaire. J'ai retiré ma veste dans un nuage de poussière. Moi j'ai beau la tapoter, j'enlève pas les taches. De ma vie j'ai grandi dans un saloon de bas étage où je prenais pour une auberge la maison close d'en face. Répétant la tolère que je suis un monde d'amour. Alors resserre-moi une tasse même si j'ai toujours sur les traces des chasseurs de ganache comme l'Ivan Cliff. Pourtant ça me fait plus rien de voir ma face sur les affiches. Recherche mort ou vif, cause I shot the sheriff pour emporter Brigitte sur mon cheval blanc. À l'ouest rien de nouveau, les ballots de paille tournoient toujours avec le vent et je traverse toujours l'ouest sauvage avec le bandana du clan. Hommage au sombrero, anonyme sous le sombrero, victime de la folie des hommes qu'on nomme. Dommage collatéraux. dommage, le village de Pau, où je lance des nuages de signaux, où je dis famille qu'ils terrorisent, ils disent
dommage collatéraux.
Dommage sombrero, anonyme sous le sombrero, victime de la folie des hommes qu'on nomme.
Dommage collatéraux.
Dommage, le village de Pau, où je lance des nuages de signaux, où je dis famille qu'ils terrorisent, ils disent
dommage collatéraux.
Triste que plus rien se passe dans ma tête. Depuis qu'on nous a volé les terrains de chasse de nos ancêtres, près des lacs d'Arizona où la cavalerie arriva. Un soir d'orage sous les nuages, ses armes à feu, ses soldats impérialistes. Et s'il fallait pas que ça suffise, la variole, la syphilis. Pas de pause pour les damnés, les papous détalés, les squaws, les mères violées. Mais il en venait toujours plus sous leur bannière étoilée. Ils assassinaient nos bisons, ont brûlé leur maison. Personne n'était heureux de l'escalade des exécutions. Expédition punitive fleurissait dans les deux camps. Mais quand tu tiens la hache de guerre, c'est que la colombe a foutu le camp. Tellement je m'aurais assumé qu'on pouvait plus faire la paix. Pour un des leurs assassinés, cent des nôtres furent massacrés. Dans notre campement incandescent, le soleil noir descendant, caché derrière les nuages, il nous regardait en pleurant. Le soleil noir descendant, caché derrière les nuages, nous regardait en pleurant. Hommage au sombrero, anonyme sous le sombrero, victime de la folie des hommes qu'on nomme.
Hommage collatéraux.
Dommage, le village de Pau, où je lance des nuages de signaux, où je dis famille qu'ils terrorisent, ils disent
dommage collatéraux.
Hommage au sombrero, anonyme sous le sombrero, victime de la folie des hommes qu'on nomme.
Hommage collatéraux.
Dommage, le village de Pau, où je lance des nuages de signaux, où je dis famille qu'ils terrorisent, ils disent
dommage collatéraux.
Barman, je vais te laisser. Le soleil va bientôt se lever. C'est l'heure de mon duel.
Bye bye. On se reverra en enfer.
Douce Kawa, le choix musical de Valentin Descopé, notre invité du jour, un exilé donc lausannois, comme je l'ai dit, qui habite désormais au Stormundigen, qui donc manie les langues, l'allemand, le suisse allemand, le français et même l'anglais. Comment on devient un traducteur en fait en Suisse?
Ça dépend un peu, comme c'est pas un métier protégé, ça, enfin il faut parler une langue et puis ensuite vouloir traduire, disons. Après, c'est vrai qu'il y a des formations aussi proposées dans différentes universités. Par exemple, moi, j'ai fait le SPEC, la spécialisation en traduction littéraire à l'Université de Lausanne. Et là, il y a tout un programme avec un mentorat aussi et puis des cours théoriques. Et c'est assez chouette parce qu'en fait, plutôt que d'être simplement lancé dans le bain comme ça, on a aussi, pour moi, c'était une traductrice qui avait pas mal d'expérience, qui m'a suivi et qui m'a dit « Écoute, là, change ça plutôt, ou ça va pas. » Et ça, c'est une possibilité, disons. Après, il y a aussi, j'avais fait un truc qui s'appelle le programme Goldschmidt, qui est un programme d'échange pour jeunes traducteurs et traductrices suisses, français et allemands. Et ça, c'était aussi assez intéressant, parce qu'on avait aussi des mentas qui étaient plus... qui avait plus d'expérience que nous, mais on était aussi entre jeunes traducteurs, traductrices, et on pouvait échanger des fois sur nos traductions, donc c'était chouette.
Mais tu parles de jeunes traductrices et traducteurs, est-ce que c'est un métier qui fait encore rêver à l'heure des Google Translate ou DeepL.com, ces traducteurs électroniques ultra performants?
Mais ça dépend ce qu'on traduit, et ça dépend aussi... une traduction... C'est aussi toujours une interprétation. Donc ces intelligences artificielles sont parfois très pratiques pour certains genres de textes. Il s'agit surtout de traduire, si on veut, un message. DeepL, par exemple, c'est assez efficace, même s'il faut toujours repasser par derrière, parce que, par exemple, dès qu'il y a une métaphore... Ça le fait complètement bugger.
C'est juste. Mais justement, pour revenir encore un peu plus loin, là, tu as expliqué la formation que tu as suivie, mais qu'est-ce qui t'a fait donner envie de devenir traducteur? Pourquoi tu as choisi, toi, personnellement, cette voie-là?
Moi, c'est un peu un hasard. Disons, j'ai étudié l'allemand à Lausanne, et justement, comme à Lausanne, il y a cette, cette possibilité d'étudier la traduction, j'ai pris, enfin, c'est même une obligation dans le cursus, en fait, on doit prendre des cours de traductologie. Et en prenant ces cours, en fait, ça m'a intéressé. Et plus j'en faisais, plus je me disais, tiens, c'est vraiment intéressant. Et puis c'est comme ça que, en traduisant, on devient traducteur, en fait.
Tu nous as aussi dit en off, en fait, donc tu as appris l'allemand à l'école, enfin, dans le cursus scolaire, et tu n'as pas du tout grandi dans un environnement bilingue.
Non, pas du tout.
C'est étonnant, on peut s'imaginer pour maîtriser à ce point-là la langue et pour en faire des traductions que normalement on devrait naître bilingue, dans un environnement bilingue. Est-ce que ça a été compliqué d'apprendre, en plus tu as appris derrière le suisse-allemand puis l'anglais, ça a été un travail de longue haleine ou bien tu as l'impression que c'est venu assez naturellement?
Disons, j'avais une très bonne professeure au gymnase qui était très stricte. Mais ça, je m'en suis rendu compte plus tard, en fait. Je ne suis pas sorti avec des très bonnes notes du gymnase. Par contre, je parlais assez bien allemand. Et j'ai fait plusieurs trucs aussi ensuite pour m'améliorer. J'ai fait mon service militaire exprès en Suisse allemande. J'avais fait la demande pour être en Suisse allemande. Et donc ça, c'était une chose. J'ai fait aussi des séjours linguistiques à Stuttgart. Puis ensuite, pendant mes études, je suis parti un an à Göttingen. Enfin, c'est un peu toujours un... Enfin, je continue aussi aujourd'hui à découvrir des trucs en allemand, à la fois en traduisant, mais aussi en lisant d'autres livres qui sont par exemple pas encore traduits ou que je me dis j'aimerais bien les lire en original aussi.
Puis le choix de l'allemand, il vient d'où? Pourquoi pas directement avant tout l'anglais ou avant tout l'espagnol, hein? Il y a une raison particulière?
Mon grand-père m'a toujours dit qu'en Suisse, il fallait apprendre l'allemand, parler l'allemand, parce que c'était quand même la langue qui serait le plus pratique par la suite. Et je crois qu'il a assez raison.
Effectivement, je crois qu'il avait assez raison.
Et puis par rapport à tes choix de traduction, il existe pléthore de livres en allemand pas encore traduits. Est-ce que c'est toi qui proposes quelque chose à ton éditeur ou éditrice, ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui t'approche, un écrivain et écrivaine de langue allemande qui aime ta plume, qui va venir te trouver pour une traduction?
Alors il y a un peu les deux. Des fois c'est des éditeurs qui viennent vers les traducteurs ou les traductrices en leur proposant un projet. Moi, ça ne m'est pas encore arrivé. Là, pour l'instant, toutes les choses que j'ai traduites, c'est moi qui les ai proposées à un éditeur qui les a acceptées ensuite. Après, le premier livre que j'avais traduit, c'était un recueil de nouvelles. Et l'auteur, on avait bien travaillé ensemble, et puis il avait fait ensuite un projet un peu bizarre avec des haïkus dans un environnement virtuel. Et là, il m'avait dit, écoute, j'aimerais bien aussi l'avoir en français, c'est une app. Est-ce que tu pourrais traduire? C'était 50 haïkus. Et puis là, j'avais fait ça. Et c'était aussi, enfin, je connaissais pas très bien les haïkus, mais on se renseigne. Et puis après, on traduit, quoi. Et puis c'était chouette.
Et ce recueil de nouvelles que tu as traduit, c'est les recueils de Markus Kirchhofer. C'est bien celle-là. Mm-hmm. Le Sauveur, paru en 2020. Le titre original, Der Stachel, si je ne me trompe pas. Et actuellement, tu es en train de traduire un autre livre. C'est la deuxième traduction que tu fais au niveau littéraire.
Oui, ouais, c'est la deuxième qui paraît... Enfin, ouais, deuxième, troisième qui paraîtra.
Qui paraîtra. Tu veux nous dire quelques mots sur ce livre-là?
Oui, alors c'est Neon Pink and Blue de Chris Schneeberger. C'est un livre assez spécial qui a gagné le prix suisse de littérature, un des prix suisses de littérature en 2021. Et en gros, ça raconte l'histoire d'une drag queen qui se réveille un matin au bord du lac de Zurich et qui raconte un peu comment elle a fini par atterrir là. Et donc c'est à la fois une histoire un peu un Bildungsroman, mais il y a aussi chaque fois l'histoire des grands-parents, par exemple, ou de tout ce qui est la comment on dit déjà
en
la
allemand,
répression des non mais la répression des personnes LGBT ou tout ce racisme. Il y a aussi toute l'initiative Schwarzenbach un peu par derrière qui est traitée, si on veut, par le côté, mais c'est un livre assez chouette et vraiment avec beaucoup de différents côtés et une langue qui est vraiment, qui est pour le coup assez dure à traduire, parce que Chris fait beaucoup de jeux de mots et on sent aussi qu'il aime bien Robert Walser. Donc il y a des fois des très longues phrases qui en français demandaient un vrai combat avec la langue. Et je crois que j'ai réussi plus ou moins à le rendre. On verra ce que ça donne, mais j'en suis pour l'instant assez content.
On va parler de ce dialogue permanent avec l'auteur que tu traduis, comment tu dois collaborer avec l'auteur, mais je propose une petite pause musicale avant, avec Pino Donaggio, Ma quale idea.
Con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale? Che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Senza avere mai le cose che pretendi e scusa, in fondo scusa, tu che dai?
M'è venuta una pensata, nella tana l'ho portata. Un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!
Si dice così, no? E poi... Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale? Che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento lei lunga la sala, lei ti farà girare in tondo senza pretendi in fondo, scusa in cambio tu che dai?
Che idea?
Ma quale idea?
Balla.
We'll be right back.
notre troisième animatrice de choc nous a rejoint ces quelques dernières secondes sur le choix musical de notre invité Valentin Descopet, traducteur. Donc Éléonore, libraire de profession, qui s'y connaît aussi, ou qui on connaît un rayon en tout cas en littérature et un petit peu en traduction, plutôt de langue anglaise pour elle. Mais Valentin, lui, est spécialisé dans tout ce qui a trait à la langue allemande et suisse-alémanique. Et on se quittait en musique il y a quelques minutes en parlant du premier roman de Chris Schneeberger, Neon Pink and Blue, qui est donc prix suisse de littérature, qui parle, comme nous l'a dit Valentin, d'une drag queen au bord du lac de Zurich. Et je vous en dis pas plus, mais on se posait la question, Valentin, finalement, comment est-ce qu'on tarifie une traduction littéraire? Parce que voilà, on s'imagine bien qu'un auteur comme Chris Schneeberger, qui écrit son roman, va gagner justement sa vie avec les ventes de l'ouvrage. Qu'en est-il d'une traduction littéraire?
Pour la traduction, il y a deux étapes. Disons, il y a l'étape de la traduction à proprement parler, où en fait, on signe un contrat avec une maison d'édition qui va dire pour tant de signes, on parle de feuillets aussi, pour tant de feuillets, on te paye tant d'argent. Le minimum recommandé par Pro Helvetia, c'est 60 francs par feuillet, donc 1800 signes en comptage informatique. Après, ça peut toujours se négocier. Si un texte est vraiment très dur, on peut aussi dire à l'éditeur, écoute, voilà, je pense que ça vaut plus que ces 60 francs et j'aimerais plus que ces 60 francs, et après, à voir si c'est accepté ou pas. Puis ça, c'est pour la prose, et puis pour les poèmes, en général, c'est 120 francs le poème. Mais ça aussi, si on se retrouve face à un poème qui est extrêmement difficile, on peut aussi dire genre, écoutez, là, j'aimerais un peu plus. Ou... Donc c'est toujours quand même une négociation, mais c'est assez difficile d'avoir plus, je crois.
Par rapport à cette traduction, tu parles là justement de différence de tarifs entre la prose et la poésie. Mais au niveau de la traduction en elle-même, c'est quand même, j'imagine, très différent entre la prose où on peut de temps en temps traduire aussi un peu le sens général, quand on ne peut pas faire justement un peu texte, enfin mot à mot. Mais pour la poésie, c'est quand même bien particulier, c'est une autre forme d'écriture. Comment traduire justement, par exemple, la poésie quand certaines poésies sont faites vraiment pour être lues dans une seule langue?
Ça, c'est une question un peu de priorisation, si on veut, des contraintes ou des problématiques du texte. Et ça vaut pour la poésie, mais ça vaut aussi pour un texte en prose, en fait. Si on se retrouve face à un texte qui joue beaucoup sur la langue, j'avais lu par exemple un article du traducteur allemand de Shakespeare qui disait une fois qu'il avait passé, je ne sais plus, 12 heures sur une vingtaine de lignes, et qu'après 12 heures, il avait crié « mais ça ne veut rien dire ». Et il s'était en effet rendu compte qu'en fait, c'était du nonsense, et que s'il essayait de traduire mot à mot, ça faisait aussi aucun sens. Donc il fallait lui-même, si on veut recréer tout le passage pour faire un autre jeu, et se retrouver avec un nonsense en allemand, qui a du coup, si on veut, rien à voir avec la version anglaise, mais qui, en fait, reproduit le geste créatif de Shakespeare.
Dans le cas de Shakespeare, l'auteur étant décédé depuis belle lurette, on peut s'imaginer, alors je ne sais pas s'il y a les garde-fous de Shakespeare, probablement, mais dans ton cas, tu es en contact direct en fait, avec l'auteur du livre, puisqu'il est bien vivant. Comment ça se passe alors, son regard critique à lui?
Moi, j'ai eu que des expériences chouettes avec les auteurs, dans le sens qu'en général, ils sont assez contents d'être traduits et ils sont aussi assez intéressés de voir ce que moi, en tant que traducteur, je vois dans leurs textes et comment je me débrouille, en fait, pour le faire. Y a par exemple, là, dans le Neon Pink and Blue, il y a pas mal de références aussi bibliques qui ne sont pas forcément citées. Et du coup, c'est moi, en traduisant tout d'un coup, je fais « Ah, mais ça sonne comme quelque chose. » Et puis, je finis par les retrouver, ce qui fait qu'ensuite, je vais aller chercher dans une traduction de la Bible, machin. Et puis là, il y a deux, trois fois où j'ai discuté avec lui et je lui ai dit « Écoute, là, il me semble, il y a une citation de quelque chose, non ?» Et il n'arrivait plus à me redire. Et finalement, j'ai trouvé que c'était l'inscription au-dessus de la porte des enfers chez Dante. Donc, vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance, je crois que c'est ça. Et donc j'ai traduit plus ou moins dans cette direction, et on en a reparlé récemment, et puis en fait, c'est une chanson qui fait référence à cette, à cette inscription de Dante, c'est ça qu'il avait cité, enfin... Et, mais en général, c'est assez chouette de pouvoir discuter avec l'auteur ou l'autrice, parce que ça apporte aussi des fois une certaine sécurité dans ce qu'on fait. Parce qu'en général, on a le texte, on regarde et tout, et quand il y a vraiment des endroits où on doute, ou des solutions, on est là genre, qu'est-ce que l'auteur ou l'autrice pense, ou est-ce que ça irait dans le sens peut-être du texte ou pas. Et là, c'est toujours très agréable de pouvoir justement avoir accès à la personne qui a écrit pour en discuter avec elle.
Et tu parlais avant de la traduction justement de Shakespeare qui a duré, pour quelques vers, quelques lignes, qui a duré 12 heures pour ce traducteur-là. Là, tu parles de ton expérience où justement tu as pu discuter avec les auteurs si tout d'un coup tu avais un souci. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé justement de te retrouver face à une traduction où tu ne voyais pas comment en fait traduire, pas comment tu pouvais en arriver au bout?
Non, alors arriver au bout, en général, c'est bon ça.
Ou disons une traduction qui t'a vraiment posé beaucoup de problèmes, qui était vraiment compliquée à traduire du fait de la langue utilisée.
Oui, alors j'ai traduit un texte oulipien il y a quelques années, où le but c'était de démonter ou démanteler vraiment tout un poème... qui était de base écrit en allemand et puis qu'ensuite, moi j'ai traduit en français et il y avait certaines contraintes si on veut, où ça avait l'air, enfin la contrainte était a priori au hasard, il y avait une répartition au hasard des mots du poème pour refaire un autre poème, mais connaissant l'auteur je me suis dit c'est sûrement pas au hasard, et j'ai commencé à chercher, j'ai demandé, il est mort donc je pouvais pas lui demander. Mais j'ai commencé à chercher, j'ai demandé aussi à des oulipiens. Et il n'y a personne qui a su trouver une espèce de régularité ou une raison pourquoi c'était comme ça. Donc là, par exemple, j'ai fait quelque chose, là aussi j'ai reproduit, si on veut, le geste. Je crois que j'avais fait tout simplement, j'avais écrit chaque mot sur un bout de papier, j'avais mis dans un petit chapeau et j'avais tiré l'un après l'autre pour faire aussi, si on veut, au hasard, quoi. Mais... je ne peux pas exactement dire si c'était vraiment comme ça qu'il l'avait fait ou pas.
Bon, tant que tu n'as pas de plainte par après.
C'est ça.
Et par rapport, désolé, à justement ton travail de traduction, mais aussi à ton travail d'écrivain, comme ça pourra peut-être faire le lien avec le prochain sujet. Est-ce que c'est l'écriture qui t'a donné envie d'être traducteur, ou plutôt la traduction qui t'a donné envie d'écrire, ou ni l'un ni l'autre?
Non, j'écrivais un peu quand j'étais plus jeune, mais c'était vraiment en touriste, quoi. Et en fait, avec les études, j'avais un peu posé ça de côté, et puis c'est à travers la traduction que j'y suis revenu, dans le sens que c'est vraiment à travers la traduction que je me suis rendu compte que c'est pas parce que je posais quatre mots sur une feuille que c'était un poème, ou que je pouvais écrire 20 pages et puis dire que c'était un texte, mais en fait, il faut encore retravailler, chercher un rythme, chercher vraiment avoir ce travail sur le texte. Et c'était quelque chose qui me manquait avant et que j'ai, si on veut, vraiment redécouvert avec la traduction. Aussi, une espèce de nécessité du texte, on peut pas... Dans mon bouquin, je crois que j'ai enlevé presque 30% entre la première version et la dernière, parce que j'aime bien faire des descriptions, j'aime beaucoup ça, c'est très chouette, mais au bout d'un moment, il faut aussi se dire, genre, oui, mais est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Et aussi pour les lecteurs et les lectrices, s'il n'y a que des descriptions, je peux avoir eu vraiment beaucoup de plaisir à les écrire, mais c'est pas sûr que les gens qui lisent ensuite en aient autant à lire.
Tu nous disais aussi que tu écrivais en écoutant de la musique, et tu nous as amené Lone Digger de Caravan Palace. C'est un morceau qui t'inspire?
En fait, les morceaux que j'écoute en général, c'est pas forcément qui m'inspirent, mais c'est ils ont un bon rythme et je les écoute presque en boucle. J'ai une espèce de playlist comme ça qui est bien rythmée, et au bout d'un moment, je les écoute plus vraiment, mais ça fait comme un espèce de fond sonore en arrière qui fait que j'entends rien d'autre. Et je peux vraiment me concentrer sur ce que je fais. Et c'est aussi pour ça que c'était pas si facile de faire cette liste. Qu'est-ce que j'écoute déjà?
Alors, on va voir ce que ça nous fait comme effet si on se met toutes à écrire. On écoute Caravan Palace.
Spinning, you feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, mama, how's it going? Can't see your body moving. Don't leave the party dying. Keep booty shaking, you know your head has no right to say no. Tonight it's ready, set, go. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around? Sound is ringing, they don't know what they're missing. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, brother, listen steady. Put down your brick, you're ready. It's hot when things get messy.
Toujours sur Carnotset Voltaire, sur les ondes de Radio Rabais. On est ensemble jusqu'à 20h avec notre invité Valentin Descopet pour parler littérature et traduction. On a parlé avant donc de tout ce que tu as traduit finalement et un peu de ton parcours. Là maintenant, on va faire un saut dans le temps. On passe dans 2 semaines, au 1er mars. Le 1er mars commence le festival Texture, un festival de littérature trilingue qui a lieu à Fribourg. C'est maintenant la 2e édition, 3e édition. Et désolé Mathieu si tu nous écoutes pour ces lapsus. Et toi donc Valentin, tu animes un atelier le dimanche 5 mars, le matin à 10h, un atelier de traduction. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, alors ce sera un atelier de 2h. A priori surtout en allemand, mais je suis encore en train un peu de le faire et je pensais peut-être faire une sorte d'échauffement avec des trucs en italien que je parle pas du tout, mais je connais un bouquin avec des bêtes étranges. Je me suis dit comme mise en bouche, si on veut essayer de traduire les noms de ces créatures en français, ça pourrait être assez intéressant. Et puis non, bah, l'idée, c'est 2 heures où des participants et des participantes seront avec moi. Et l'idée, ce serait de traduire des textes, quoi. soit par groupe. Je vais faire plusieurs exercices, si on veut. Et l'idée, c'est aussi d'échanger autour d'un texte, pas seulement d'être tout seul ou toute seule dans son coin avec un texte, c'est d'essayer de faire ça le mieux possible, mais aussi de regarder, tiens, les autres personnes qui sont avec moi dans cet atelier, elles pensaient que ça, que moi j'ai rendu comme ça, on pourrait aussi le faire comme ça. Et puis c'est assez intéressant, en fait, de voir. C'est aussi ce qu'on fait justement avec les rencontres de Bienne où je participe. On propose en général des textes à la traduction et après on compare les différentes possibilités que les gens nous ont envoyées. Et des fois, ça peut être vraiment, vraiment très large, quoi. Cette année, on traduisait de la BD pour la première fois et je crois qu'il n'y avait pas une bulle qui était la même dans chacun des textes, où il y avait chaque fois au moins une solution différente, alors que souvent, il y a quand même certaines phrases où on se dit, bon, il n'y a pas 40 manières de dire ça, quoi. Et là, s'il y en avait.
Et donc, tu disais principalement la traduction en allemand. Donc, tu vises quand même plus un public germanophone ou des francophones pourraient totalement s'en sortir ?
C'est l'inverse. Ce serait plutôt...
Ouais.
des germanophones pourraient aussi venir, dans le sens que c'est aussi un travail sur la langue. Donc, c'est assez intéressant toujours de voir, d'avoir, si on veut, ces deux perspectives, à la fois des personnes dont c'est la langue maternelle, mais aussi des personnes dont c'est pas la langue maternelle. Et ça, avoir les deux, c'est aussi intéressant, parce que ça fait ressortir différents trucs où on fait pas forcément toujours attention aux mêmes choses quand c'est notre langue maternelle.
On pourrait faire aussi l'image du téléphone arabe, faire traduire en français le texte, puis faire traduire le texte de français en allemand et comparer les deux versions allemandes, l'original et la retraduction. Ce serait sans doute complètement différent.
Oui, ça fait ressortir plein de choses. Mais aussi parce que chaque fois, quand on traduit, on doit faire des choix. Et puis les gens qui vont retraduire, ils vont faire d'autres choix qui vont faire qu'on va arriver sur un texte qui sera clairement pas le même que l'original.
Et puis donc, quand on n'arrive pas à faire de choix, on fait comment ? On tire au sort ? Ou bien, pour toi, ça a toujours été relativement facile de faire ce choix ? Ou alors, on met les deux idées en deux phrases ? On a l'habitude de dire qu'en français, on fait deux phrases avec une phrase en allemand.
Disons, c'est un peu aussi le deal du métier, quoi. Si tu traduis un texte, c'est aussi toi, dans ta position d'auteur ou d'autrice de ce texte, tu dois faire des choix. T'as pas vraiment le choix. Mais après, là par exemple, j'ai rendu une traduction aujourd'hui pour la revue Vice Versa, et j'ai eu les corrections de la dame de la revue, et il y avait des trucs où c'était des possibilités auxquelles j'avais pensé, et puis après je m'étais dit, ah en fait, non, je vais faire ça différemment. Puis elle, dans ses commentaires, elle me dit, ah, on pourrait peut-être quand même plutôt faire comme ça. Et puis moi, je dis, ah oui, bah oui, j'y avais pensé, mais en effet, alors si tu dis qu'on peut faire ça comme ça. Et c'est un peu toujours aussi une négociation autour du texte.
En tous les cas, pas une science exacte, hein. C'est ça qui est le passionnant.
Et puis alors justement, en tant que traducteur, du fait de ces multiples interprétations, est-ce que tu es relu ensuite par un autre traducteur de métier ou par l'auteur original du texte ? Comment se passe la correction d'un roman littéraire, d'une traduction littéraire ?
Si c'est bien fait, normalement on a aussi un autre traducteur ou une autre traductrice qui relit et qui dit justement... ah oui, ça peut-être plutôt comme ça, ou là, je crois que tu peux aller plus libre. C'est ce que j'ai eu avec le livre de Chris, c'est Raphaël Lacor qui m'a lu, et il y a plein, moi je suis assez convaincu que sa relecture a permis d'améliorer le texte. Après, ça arrive aussi que des fois, elle fasse des commentaires ou des propositions, puis je me dis, non, c'est pas ça. Par contre, moi, ce que j'ai écrit, c'est pas ça non plus. Donc, à ce moment-là, il faut se dire, bon, il me faut une troisième solution. Et c'est c'est assez chouette. Et puis là, justement, Raphaël a relu le texte et maintenant j'ai les corrections d'Isabelle Sprissa. Et là, pareil, il y a des fois où elle m'a mis des corrections, je me suis dit, ah oui, non mais en fait, ouais, non mais elle comprend pas, là, ça veut dire que moi, il faut encore que je modifie encore un peu. Et d'autres fois où elle me dit qu'elle comprend pas, et je me dis, non mais en fait, le texte en allemand aussi, à cet endroit, il est un peu obscur. Je peux me permettre, si on veut, de laisser cette confusion.
Et par rapport justement au dilemme que tu peux avoir, toi, tu as écrit un livre, tu l'as écrit en français, originalement. Et si tout d'un coup, tu pensais à faire une traduction pour le public, les lecteurs germanophones, est-ce que tu opterais plutôt pour ta propre traduction ou ce serait plutôt conseillé justement de voir avec un autre traducteur ou une autre traductrice pour que ce soit un regard externe qui traduise ton texte?
Moi, je préfère... Enfin, je me sens pas de le traduire vers l'allemand, disons. Et je trouve aussi plus intéressant d'avoir un regard externe sur mon texte parce que, au final, moi, je sais ce que j'ai voulu écrire et j'ai peut-être réussi plus ou moins à faire transparaître ce que je voulais dire, mais au final, ce qui compte, c'est le texte. Enfin, il se peut que dans le texte, il y ait des associations que j'ai pas voulu, mais que quelqu'un qui a pas écrit le texte va lire, et si on veut, c'est comme un enrichissement du texte qu'il n'y aurait pas si moi, je le traduisais.
Pour revenir aux ateliers de traduction, que, notamment celle à Texture, le 5 mars, dans ces ateliers, quel est le genre de public? Est-ce que c'est les mêmes personnes que tu vois chaque année à Vienne, ou bien est-ce que c'est chaque fois quelqu'un de différent? Est-ce que c'est plutôt des professionnels, plutôt des amateurs qui se passionnent, qui sont curieux de ce métier-là?
Je pense qu'il faut déjà avoir un certain intérêt pour la traduction, oui. Après, je pense pas que ce soit forcément des professionnels qui vont venir. Ou j'espère qu'il n'y a pas que des professionnels, disons. Ça me ferait aussi plaisir de voir des étudiants en allemand de Fribourg, par exemple, qui voudraient aborder un texte sous un autre point de vue. Ou aussi, ce qui arrive souvent à Bienne, c'est que des personnes qui traduisent aussi professionnellement, mais plutôt genre qui font de la traduction généraliste, disent « Ah, mais j'aimerais bien en fait essayer aussi de la traduction littéraire, parce que c'est d'autres enjeux. » J'imagine que ce sera un peu ce genre de public, mais j'en sais rien.
Alors, en tout cas, les gens qui sont intéressés à aller à cet atelier, donc germanophone, francophone, c'est égal. Donc c'est, vous pouvez aller sur le site de texture.ch, texture au pluriel avec S. L'atelier a lieu de 10h à 12h le dimanche 5 mars. Et puis, on peut simplement réserver sa place depuis le site internet. Et on fait une pause musicale avant de reprendre notre discussion avec Valentin Descopet. The way you flicker like a cigarette flame. I put your head like a London babe. Hold it right, rock it like a hurricane. You got that look in your eye. I take one look and I'm high. No, I'm exactly your type. We've been together so nice. We had this so in what life. Think we gon' call it a night. I call the car if you like. But first, I wanna see you walk that walk. Yeah. Baby, walk that walk like. Walk that walk like.
Tu as un objet bien précieux dans tes mains, un objet que beaucoup adorent. C'est ton livre et tu vas nous en lire un petit extrait.
Chapitre 1, là-haut sur la montagne. Personne ne lève jamais les yeux pour admirer les fresques du Grand Hall. Si l'on est en avance, on entre dans l'ancien buffet de la gare pour commander un café ou un Indian chai latte sans sucre, à l'emporter. On sort le boire sur la voie au soleil en observant les piliers d'acier qui soutiennent la verrière historique. Derrière eux, entre les immeubles, il y a le lac. Les trains sont toujours à l'heure, donc en avance. Il faut emprunter l'un des sous-voies, slalomer entre les gens, sauter dans le wagon au moment où le contrôleur siffle. Le train s'ébranle et prend de la vitesse en direction de l'est. On voit d'abord de vieux immeubles couverts de tags et d'échafaudages. Puis arrive la banlieue bourgeoise. Il y a plus de maisons, entrecoupées de vignes. Les jardins sont soignés. Le train quitte enfin la ville, longe le lac et les villages vignerons. Des promeneurs escaladent les collines terrassées. Les rives sont occupées par de grandes propriétés. 10 minutes plus tard, le paysage change. L'air se réchauffe. Les vitres se colorent peu à peu de façades à l'italienne. Ça et là, les passagers assistent à l'éclosion de quelques palmiers. Puis le train freine, il s'arrête en pleine Méditerranée. La ville est plus petite, un mélange entre vieux hôtels et grands complexes modernes. Il doit y faire bon vivre.
Et c'était donc un passage du livre Les Déshérités, livre de Valentin Decopé aux éditions Campiche. Un livre que vous pouvez retrouver évidemment partout en librairie. Donc n'hésitez pas et... faites un tour en librairie.
C'est un polar. Hein. C'est pourquoi ce choix de se tourner vers le polar plutôt qu'un autre style d'écriture?
C'était un peu un hasard, disons. J'ai eu l'idée de l'histoire avant de vouloir en faire un polar. Et bon, y a un meurtre dans un village des Alpes vaudoises. Et la question, c'était un peu comment traiter de cette histoire. J'aurais pu en faire aussi une histoire de famille ou raconter l'histoire du meurtrier ou ce genre de choses. Et en fait, ça m'intéressait moins. Je préférais avoir rentré dans cette histoire par le biais de cet inspecteur qui est aussi un citadin qui connaît pas grand-chose non plus de la vie à la campagne. Et ce qui, à mon avis, correspond aussi à une bonne partie des lecteurs et des lectrices. Et comme ça, on a un personnage qui rentre là-dedans et qui doit découvrir en fait à la fois le meurtrier, mais aussi comprendre comment marche toute cette ville, enfin tout ce village, toutes ces relations entre les gens, alors qu'il n'en a pas du tout l'habitude. C'est pas vraiment la même chose.
Un polar qui se passe en Suisse romande, donc dans les Alpes vaudoises. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que tu es en lice pour le prix des lecteurs de la ville de Lausanne 2023, prix qui sera remis le 6 mars. Est-ce que tu sais déjà si tu as gagné?
Non, les votes sont encore ouverts. Donc vous pouvez encore toutes et tous aller voter pour votre livre favori.
Les Déshérités, aux éditions Campiche.
On a parlé beaucoup de traduction en début d'émission. Est-ce que tu aimerais, en tant que traducteur, aussi te tourner vers le polar, puisqu'il y a pléthore d'écrivains, d'écrivaines romans qui sont spécialisés dans ce domaine. D'ailleurs, on en a reçu sur cette antenne. Tu te verrais traduire aussi plutôt du polar, ou c'est pas forcément quelque chose qui t'attire?
Ça dépend du livre. Enfin, comme dit, moi, pour l'instant, j'ai eu de la chance, j'ai traduit que des livres qui me plaisaient. Donc si je trouve un polar écrit en allemand, je me dis, tiens ça, il faudrait vraiment le traduire en français, il est vraiment chouette, absolument unbedingt. Alors là, bah, oui, je le traduirai sans problème.
Alors peut-être un choix aussi d'un auteur, d'une autrice qui te plaît en particulier, que tu rêverais de traduire
Oui. Il y a une poétesse allemande, Sarah Kirsch, qui est un peu une des grandes poétesses allemandes, mais qui n'est pas aussi connue que Elfriede Jelinek ou Ingeborg Bachmann, par exemple, et qui est très peu traduite. Il y a deux recueils qui ont été traduits dans les années 80-90, je crois, et sinon rien. Et si j'arrivais à trouver une maison d'édition pour ça, ça me plairait beaucoup, parce que c'était une femme assez fascinante, elle était est-allemande, et puis elle est ensuite partie en Allemagne de l'Ouest. Et c'est des poèmes qui sont extrêmement modernes, je trouve, où elle traite de tous les problèmes écologiques, par exemple, mais il y a 50 ans déjà, et aussi de la place de la femme, ce genre de choses. Et enfin, ça, ce serait quelque chose que j'aimerais bien traduire, disons.
En plus, c'est facile à vendre aux éditeurs, c'est extrêmement actuel, hein.
Et quel serait le chemin que tu devrais faire pour pouvoir traduire un texte comme ça? Est-ce que tu devrais en premier regarder si tu peux obtenir les droits, si c'est pas encore dans le domaine public, ou en premier regarder plutôt avec un éditeur qui serait motivé à publier?
C'est un peu les deux. Enfin, j'ai déjà demandé, les droits sont pas encore vendus, donc je le sais. Mais ensuite, ça, c'est peut-être avec des rencontres avec des éditeurs, ou alors je peux aussi faire ce qu'on appelle un essai de traduction, où je traduis une dizaine de poèmes, et ensuite je propose ça à différentes maisons d'édition avec une note de lecture en leur disant, voilà, bah, Sarah Kirsch, grande poétesse allemande, qu'il faut absolument traduire, et je réexpliquerai un peu plus précisément, quoi. Mais ce serait ça l'idée. Et après, s'ils trouvent que c'est une bonne idée, bah, ils vont acheter les droits, et sinon, ils me disent non.
Et ça se passe régulièrement, ce genre justement d'événement, enfin, qu'un traducteur veuille à tout prix traduire un auteur spécifique et qui fasse déjà quelques traductions et qu'il le présente à des éditeurs?
Bon, normalement, on traduit pas tout un bouquin, parce que c'est quand même ça prend beaucoup de temps, et si on trouve pas d'éditeur, bah, c'est une perte d'argent, si on veut. Mais il arrive souvent que des traducteurs soient des défenseurs de certains auteurs dans d'autres langues. J'avais rencontré la traductrice allemande Emmanuelle Carrère, où elle s'était vraiment battue depuis des années pour traduire Carrère en allemand, pour essayer de le faire reconnaître. Et au début, ça marchait pas très très bien, je crois. Et puis, 10 ou 15 ans après, tout d'un coup, il a explosé et tout le monde voulait lire Carrère. Et les traductions étaient là, il n'y avait pas besoin d'attendre du 10-15 ans avant qu'elle soit toute faite. Donc ça arrive aussi assez souvent que les traducteurs ou les traductrices soient justement des porte-parole, si on veut, de leur auteur dans d'autres langues.
Moi, j'ai une question sur le processus d'écriture. Quand tu es en train de traduire un roman comme actuellement, est-ce que tu arrives à écrire une œuvre propre en parallèle? Par exemple, ton roman Les Déshérités, est-ce que tu l'as rédigé en parallèle de ton travail de traducteur, ou tu t'es consacré entièrement aux Déshérités?
Non, j'avais pas de traduction en même temps. Après, c'est aussi un roman que j'ai écrit dans le cadre de mon master à la HKB, donc j'avais, si on veut, que ça à faire. Je pense que ça dépend un peu des gens. Moi, je fonctionne en réfléchissant toujours à 30 projets en même temps. Donc là, je suis en train de traduire Chris, mais je réfléchis aussi à d'autres trucs en me disant, tiens, cette histoire, ça pourrait être bien. Et ensuite, je travaille aussi beaucoup avec des plans quand j'écris. Donc là, je traduis Chris, mais c'est peut-être aussi possible que je réfléchisse un peu au plan d'un roman. Et puis aussi, je suis en train d'écrire une thèse, donc ça m'occupe aussi pas mal la tête sur qu'est-ce que je pourrais chercher encore, comment... Donc c'est un peu tout un espèce de processus mélangé. Puis je dois dire qu'en plus, voilà, actuellement, la thèse va prendre aussi vraiment de plus en plus de place. Et, enfin, elle prend déjà plus ou moins toute la place. Et ouais.
Donc, on arrive à la fin de l'heure. Je rappelle donc que pour te rencontrer, discuter avec toi de traduction, on peut participer à l'atelier du 5 mars aux textures, traduire avec Übersetzen mit Valentin Descopé. Allez simplement sur le site internet de textures.ch. On te souhaite bonne chance pour la suite. N'hésitez pas non plus à lire son roman Les Déshérités, en lice pour le prix des lecteurs de la ville de Lausanne. Et puis, on se quitte avec une chanson de Colin Hay, Overkill. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur cette chanson ?
Non, pareil, c'est aussi une chanson qui est bien rythmée et que j'aime bien écouter pendant que je travaille. Mais merci beaucoup de m'avoir reçu et pour les personnes intéressées, bah, comme t'as dit, le dimanche, ce sera très chouette à texture, même si vous ne parlez pas si bien allemand.
Ben oui, on peut parler français avec toi, nous avons remarqué. Et juste après nous, Radis Lee, on vous dit au revoir à tout le monde. Tschüss zusammen.
Très bonne soirée, à bientôt. Tschüss zusammen.
I think about the implications of diving in too deep, and possibly the complications, especially at night. I worry over situations I know will be alright. Perhaps it's just imagination. Day after day it reappears, night after night my heartbeat shows the fear. Ghosts appear and fade away. Alone between the sheets only brings exasperation. It's time to walk the streets, smell the desperation. At least there's pretty lights, though there's little variation. It nullifies the night from overkill. Day after day it reappears, night after night my heartbeat shows the fear. Another at night.